Bienvenue dans le premier épisode de Terre à Tête. Nous voulons donner la parole aux producteurs du terroir Héraulté, à ceux qui font du bon et qui le font bien. Aujourd'hui, partons à la rencontre de Cédric et Sébastien des Jardins de Costebelle, deux amis qui partagent une passion, produire des fruits et légumes de grande qualité dans le respect total de la nature. Ces échanges sont menés par Gwenaël des terroirologues et initiés par Emmanuel et Rémi du Héros Local Food Club.
Faites attention parce qu'il y a quelques abeilles, parce qu'on a des ruches en fait. On a des ruches, pas pour faire du gain. En fait, on a un partenariat avec une association pour sauver la vie des abeilles.
D'accord.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on a trouvé la technique. C'est qu'on met les abeilles comme ça, nous, et bien, qu'est-ce qu'elles font?
Elles pollinisent.
Elles pollinisent.
C'est vos ouvriers agricoles, quoi.
Et c'est ça, il faut le boulot à notre place. Et en contrepartie, nous, on les nourrit. Et à la fin, il y en a plus. Et donc, finalement, le but, nous, c'est pas faire le miel.
Alors, simplement, je vais vous demander de vous présenter tous les deux.
Moi, c'est Cédric, des Jardins Costebelle. On a commencé l'activité il y a de ça 7 ans. On fait vraiment du légume à l'ancienne, sans mettre le moindre produit, et en respectant un peu la philosophie du maraîchage sol vivant.
Moi, Sébastien, 45 ans, co-créateur donc, des Jardins de Costebelle.
Pour beaucoup de monde, le nom de Costebelle, on le découvre sur les cartes des restaurants.
D'accord.
Notamment des restaurants un peu prestigieux. Ils ont quoi spécial vos légumes pour plaire autant à des belles tables, aux chefs étoilés?
Nous, ce qui s'est passé, c'est que quand on a démarré l'aventure, on a démarré sur une toute petite parcelle. Donc déjà, on a pu expérimenter pas mal de choses. Puis surtout, on avait une chance, c'est que moi, dans mon réseau de copains et d'amis, j'avais 2-3 restaurateurs, dont Charles de la Réserve Rimbaud, Pierre-Olivier Prouez, et Cédric était ami avec, à la Maison de la Lozère, Éric Sellier. Ouais. Il connaissait bien. Donc, ça a quand même été un sacré tremplin pour nous, pour pouvoir essayer nos produits. Et bon, ils ont été rapidement validés, parce que l'amitié, c'est une chose, mais si ça n'avait pas été qualitatif, on ne nous aurait pas rappelé. Donc, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés rapidement sur leur carte, avec les possibilités qu'on avait, les volumes qu'on leur fournissait qui étaient faibles. Ils se sont adaptés à nous, et ça nous a permis de pouvoir démarrer.
Là, il y aura 2-3 courges.
Mais ça, les courges, c'est pas pour maintenant. C'est pour l'automne.
Normalement, il y a des melons aussi, mais je sais plus où ils sont, parce que
j'avoue que... Ah oui, les melons.
Je crois que je me suis un peu mélangé dans les variétés. Donc là, t'as du melon, t'as du potimarron, t'as de la courge spaghetti.
Ah oui, donc potimarron, courge spaghetti, c'est plutôt pour l'automne.
Le melon, c'est l'été, potimarron fin d'été, courge spaghetti fin d'été, butternut automne, courge musquée automne et la langue de Nice automne.
D'accord, donc un peu tout en même temps là, mais à différents tempos.
Différents tempos et différents endroits, et on aura la surprise parce que, comme tu vois, les plants ils se ressemblent un peu tous.
Et en plus, ils vont se polliniser entre eux.
Ouais, pas trop non plus.
Il y a des melons courges.
Pas trop, parce qu'à la fin, je vais faire des melons courges.
Des melons spaghettis.
Exactement.
Les restaurants ont quand même ce désir de se rapprocher de la nature et de leur terroir, quoi. Parce que finalement, la restauration d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est essayer de décrire au maximum, à travers une assiette, l'univers qui les entoure. Et ben là, pour le coup, les légumes du coin, c'est ce qui reflète le plus cette image.
Vous parlez de la nature, ça a l'air d'être une valeur importante ici, le respect de la nature, suivre la nature, se caler en fonction de la nature. C'est quoi votre philosophie, en fait, votre approche?
Mais nous, on a... Bon, déjà, il y a un contexte climatique ici dans le sud qui est de plus en plus compliqué, avec des écarts de température qui sont quand même assez élevés. Plus une terre argilo-calcaire sur laquelle il faut quand même s'adapter. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile de planter une tomate ou une carotte dans une terre d'ici que dans des terres maraîchères du centre de la France ou de Normandie. Donc, on est obligé d'adapter ça au pédoclimat. Et du coup, on a quand même du retour sur les taux de sucre des légumes. On met énormément de paillage, on apporte énormément de matière organique, naturelle. Donc ça, tout ça pour nous, c'est quand même très important parce que, encore une fois, comme on a une petite surface, on est obligé de faire du qualitatif. Ça a quand même une belle valeur. Ça.
Nous, le but, c'est pas tout passer en une semaine. Nous, les tomates, tu les auras tout juillet, tout août, et ça sera évolutif, quoi.
C'est quoi? On est dans la permaculture, l'agroécologie, la biodynamie? C'est quoi les grandes idées?
C'est un peu un mélange de tout. Hein. Après, nous, c'est pour ça qu'on a refusé toute idée d'appellation. C'est que finalement,
le label.
On se retrouve, ouais, c'est ça, on se retrouve à la fois dans toutes et dans aucune. Donc finalement, nous, notre but, c'est avoir la liberté de faire Et nous, on estime que la façon dont on fait, c'est vraiment celle qui respecte le plus, puisqu'il n'y a pas d'intrants, il n'y a aucun produit. Et finalement, est-ce que être bio et mettre de la bouillie bordelaise, c'est être vraiment en adéquation, en respect avec l'écologie? On ne sait pas. Donc nous, il y en a qui font à leur manière, nous, on fait avec la nôtre.
Donc nous, même le cuivre, on ne le met pas. On préfère se faire manger quelques pieds et on passe à autre chose.
On sait qu'on aura un taux de perte qui sera supérieur aux autres. Mais honnêtement, je préfère perdre 20% de ma récolte, mais que les 80% qui restent, que je propose, je sais que je peux les donner les yeux fermés. Quoi.
Vous le laissez à la nature, les 20% qui restent.
Ouais, voilà, c'est la part du sol, on appelle ça.
La part du sol. Vous vous êtes rencontrés dans un cinéma, je crois.
C'est ça.
Oui. Comment vous êtes retrouvés à être tous les deux producteurs?
Moi, j'ai travaillé 15 ans au CGR, c'est là où j'ai rencontré Cédric. Et on avait déjà bien sympathisé à la base. Et chacun faisait son petit potager dans son coin, là, chez moi, à la maison, lui chez lui. Et puis moi, je lui ai dit, j'ai une terre de mes grands-parents là, à Villeneuve, qui demande juste à ce qu'on s'en occupe, parce que mon père, il avait commencé un peu à arrêter avec la retraite. Et du coup, j'ai dit, on va prendre quelques plants de tomates, quelques plants d'aubergines, on va planter, on va voir ce que ça donne. Mon grand-père, à l'époque, vendait des fruits et légumes sur le bord de la route, quand c'était l'époque. Et il plantait ses tomates, il plantait ses aubergines, ses courgettes, et voilà, c'était. Mais après, à toute petite échelle, quoi. Ouais. C'était pas une échelle professionnelle.
Voilà, mais sans produits chimiques.
Ah non, il mettait rien.
C'était à l'ancienne.
C'était à l'ancienne, ouais, il mettait rien du tout. Ou alors il mettait des trucs, mais je sais pas où c'est.
Non, mais ça veut dire que le dimanche matin, quand on vient au petit marché, on peut acheter les mêmes tomates que chez les étoilés, quoi.
Ah oui, ce sont fait. Exactement les mêmes.
Tout à fait.
C'est certain. Il n'y a pas de favoritisme.
C'est beaucoup des micro-parcelles, des petites parcelles,
des
productions spécialisées. Comment on fait pour éviter d'épuiser la terre quand on fait de la micro-parcelle? Parce que le risque, c'est de lui demander beaucoup sur un petit secteur et qu'à la fin, la terre, elle soit
épuisée. C'est très très simple. La terre, c'est un organe qui est vivant, comme nous, fait de cellules, fait de champignons. Et elle est comme nous, il faut la nourrir, sinon elle meurt. Donc sur des petites parcelles, c'est valable sur les grandes, il y a une nourriture de sol, on considère que c'est à peu près de l'ordre de 20 tonnes de matière sèche à l'hectare. Ça veut dire qu'on va leur faire un apport de matière sèche, d'engrais naturels, des fumiers,
On fait le système d'engrais vert et de faux semis. Par exemple, c'est tout bête, avant la production des courges, on a mis des fèves et de la moutarde qu'on n'a pas produit volontairement, qu'on a laissé mourir. Et les plants, en se désagrégeant, se compostent directement sur le sol. Et ça a stocké de l'azote dans l'air. Et finalement, c'est ça qui va nourrir nos courges.
C'est la nourriture du sol.
Voilà. En fait,
Après, si on veut épuiser un sol, on plante, on récolte, on plante, on récolte.
Oui, c'est ça.
Et puis après, on va chez le marchand chercher de l'engrais organique. Et puis après, on va chercher de l'engrais chimique. Et puis après, il y a tout qui est mort, il n'y a plus rien qui pousse. Et on voit qu'il n'y a plus que des pierres.
C'est ce qu'on te disait tout à l'heure, c'est que nous, s'il y a un seul label sur lequel on pourrait vraiment s'identifier, c'est du maraîchage sur sol vivant, puisque finalement, c'est vraiment ce qu'on recherche. C'est qu'on considère le sol comme un élément vivant qu'on va nourrir, et c'est lui qui va nourrir le légume. En fait, nous, notre but, c'est pas nourrir le légume. Nous, notre but, c'est rendre la terre bien vivante et fertile, et après, c'est la terre qui gère pour fournir les légumes.
C'est le triptyque champignons, bactéries, vers de terre, qui aujourd'hui nourrit le sol et nourrit les légumes. Et enlever ça, on sait que 80% de la biomasse animale se situe dans les 5 premiers centimètres du sol. On comprend bien que quand on met un grand coup de croc ou un grand coup de tracteur et qu'on en défonce 40 cm, on comprend bien ce qui se passe. Ouais. Donc c'est pour ça que tout ce tissu organique, on va dire, c'est la vie. Si on tue, derrière, on est obligé de mettre sous perfusion.
Allez, on va voir les tomates.
Ah, les stars.
Voilà.
Les stars de Costebel.
Voilà, les stars du moment. Voilà, il y en a un peu. Hein. Voilà. Il y a de quoi faire.
Les tomates, c'est super dur à faire pousser.
Ouais.
Non, mais tous les gens qui en font... Qui ont un potager disent les fleurs elles tombent, les fleurs elles sèchent.
Il y a toujours un truc.
C'est fragile la tomate en fait?
Oui et non. Bah, tu regardes là, est-ce qu'elles ont l'air fragiles?
C'est quoi votre secret pour que les tomates elles soient. Il y en a autant où?
tu vois là la serre, ce qu'on est en train de faire, je le fais 5 ou 6 fois par jour. Donc tu vois, je peux te dire que dès qu'il y en a une qui va pas, je le vois direct. Hein.
Ah, et tu fais le tour, tu surveilles.
Après aussi, on a quand même, faut aussi dire, on fait une technique avec les variétés. Tu vois, par exemple, là, tu as plusieurs variétés. Et on a une variété qui est particulière de tomates, c'est la cornue des Andes. Et en fait, elle a vraiment cette particularité-là. C'est que tout à l'heure, on parlait des mauvaises herbes qui sont bio-indicatrices. Et celle-là, en fait, elle va me dire que dès qu'il y a un problème, c'est vraiment la variété de tomate la plus fragile. D'accord. Et dès qu'il y a un problème, ce plan-là, il va me le dire de suite.
C'est un témoin, quoi.
Exactement. C'est un petit peu comme ceux qui mettent les rosiers au pied des vignes pour te dire qu'il y a un risque de mildiou peu. Et en fait, tu mets ça. Et là, je vois si mon process de culture, il est bon ou pas bon.
Quand tu bosses avec des restos, c'est que le plus important aussi pour eux, c'est le goût. Donc, et si tu vas avoir un goût et avoir une tomate qui est pleine, parce que là, on va prendre l'exemple de la tomate, il faut savoir jouer avec les arrosages. Et jouer avec les arrosages, c'est que ta tomate, à la fin, son poids, ça soit que de la chair. Et pas de la flotte. Et pour que le poids, ça soit que de la chair, parfois, il faut accepter que ta tomate, elle soit plus petite que les autres.
Ça vous fait quoi de voir vos produits transformés par les chefs? Parce qu'ils ont tendance à révolutionner les goûts, des fois à faire une tomate sucrée, enfin des choses improbables. Est-ce que des fois ça vous étonne ou ça vous plaît de voir l'inventivité? Comment vous le ressentez?
Non, c'est plaisant parce qu'eux, ils ont quand même des métiers qui sont difficiles. On l'a encore vu avec le Covid. C'est quand même vraiment des métiers qui sont pas faciles. Puis nous, les chefs avec lesquels on travaille, c'est des vrais passionnés, ils sont comme nous. Parce que s'adapter à nous, c'est pas forcément facile. Pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure. Donc du coup, nous, voir nos produits dans les assiettes et avoir les retours clients qu'ils ont, soit par eux, soit par les clients eux-mêmes qui viennent nous le dire, c'est hyper gratifiant.
Alors il y a eu une pause à cause du Covid, mais vous servez combien de restaurants?
Entre 12 et 15.
Entre 12 et 15, ouais. C'est peu. Je crois que vous les choisissez, c'est ça? Vous avez plus de demandes?
Oui, on a plus de demandes. On a la chance d'avoir une petite liste de personnes qui attendent de travailler avec nous. Et en toute humilité, nous, on fait tout ce qu'on peut. Quand on peut les servir, on le fait. Malheureusement, notre superficie ne permet pas de... Et puis, il y a toujours priorité à ceux qui nous suivent depuis le début, évidemment.
C'est ça. Alors, et on préfère servir bien peu de personnes que servir mal plein de restos. Parce qu'à la fin, si tu te retrouves avec 40 restos et que tu leur livres 3 tomates, ils vont pas faire grand-chose.
Comment vous les choisissez, ces restos? Comment vous les avez choisis? Comment vous validez votre envie de travailler avec quelqu'un?
Il n'y a pas de recette magique, hein, c'est vraiment au feeling. Hein,
Ouais, on choisit, on essaye de voir. C'est vraiment au feeling quand ils viennent, quoi. Presque à la tête du client, on va dire, et à la passion en tout cas. Ouais, les gens qui viennent là, ça s'est vu arriver qu'on ait des gens qui viennent, notamment du reflet d'Aubion. C'est quelqu'un qui est quand même venu 2 fois. Sur les 2 fois, on y a dit, je suis désolé, on peut pas. Et quand il est revenu à la 3e, j'ai dit, on peut pas le servir, c'est pas possible, quoi.
Ah ouais, c'est un passionné, c'est on a un pas acharné le droit. Et de toute façon, on ressent de suite quand il y a une connaissance du produit, quoi.
Vous faites des produits de saison, on est d'accord? Là, en ce moment, c'est quoi qu'il faut manger? C'est quoi les produits de saison?
Là, on est dans le cœur de la tomate, c'est le cas de le dire. C'est une saison qui est courte, enfin, chez ceux qui les travaillent normalement. On est dans l'aubergine, on est dans la courgette, on est dans le concombre, on est dans le poivron. C'est ça. Et toutes les herbes aromatiques du sud. Et là, pour les basiliques, nous, on a 5 ou 6 basiliques différents. On travaille sur du grec, on travaille sur du rouge, on travaille sur du citron. Donc on est vraiment en pleine période estivale. Et qui est, encore une fois, qui est censée être très courte. Une tomate, la première, elle est ramassée mi-juin avec un peu de chance, début juin avec beaucoup de chance. Et puis, à partir du mois de septembre, c'est fini, quoi. C'est fini.
Ouais, faut passer à l'automne-hiver.
Voilà, donc c'est des périodes qui sont courtes. Et les vrais amateurs de tomates savent que on en profite 2 mois, 2 mois et demi, et puis après, c'est fini.
Ouais, sauf que chez nous, ils n'en verront pas au mois de janvier.
Là, tu vois, tu as quelques aromatiques.
C'est quoi?
Ça, c'est du romarin.
Romarin.
Après... Là, je crois que t'as de la mélisse et t'as du thym. Bon, après, voilà, on va pas trop mettre les mains parce que on commence un peu à se faire gagner par les ronces. Là, c'était la saison qui s'est terminée des artichauts.
Alors, quand une saison se termine, moi j'ai été surpris de m'en rendre compte une fois. Il y a un moment, quand c'est fini, même s'il y a encore des fruits sur le plan, des fois vous laissez.
Oh, regarde. À la fin, je sais que tu vois cet artichaut là, il va s'ouvrir, il va être en fleur. Et j'ai les abeilles qui sont juste à côté. Je crois que c'est leur plat préféré. Donc. En aubergine, on a plein de variétés. On a de la Black Star, c'est une variété violette ou noire, il y en a qui disent. On a de la graffiti. La graffiti, c'est celle qui est rayée comme ça. Et après, on a la blanche. Bon, je t'avoue que la blanche, moi, c'est une de mes favoris.
Tu la manges comment l'aubergine, toi?
Moi, je l'ai fait griller ou je les mange au restaurant.
Tu les cuisines pas, tu les manges au resto?
Ouais, après sinon je les mets au four, tu vois, je fais des stries, je mets un peu d'huile d'olive, je mets au four et à la fin il faut que je la mange à la cuillère.
Ah, là il y a un plan qui a pas tenu.
Ouais, je l'ai arraché. En fait j'avais vu un plan qui n'était pas en très bonne santé et vu qu'on met pas de produit, eh ben, ce que je fais c'est que si j'ai tellement peur qu'il contamine les autres, je l'arrache.
Il y en a peu des producteurs finalement sur la métropole de Montpellier. On sait qu'il y a beaucoup de vignerons, on est plutôt une terre de vin dans les traditions. On n'imaginait pas forcément cette habitude du maraîchage, de ce travail de la terre. Votre expérience, elle prouve que c'est possible finalement. Les terres d'ici, elles peuvent être de qualité pour faire des bons produits.
Bien sûr, c'est même les terres argilo-calcaires sont connues pour ça justement. Elles sont pas tellement faciles à utiliser, mais elles donnent de très bons résultats. Et après, sur le nombre de producteurs, peut-être il faut voir avec les offres parcellaires que peuvent donner certaines villes, certaines agglomérations, quels sont les échanges entre les politiques et aller chercher, j'en sais rien moi, dans les écoles, des jeunes qui peuvent peut-être les motiver et tout. Et puis après, la base, c'est le travail. C'est-à-dire que c'est quand même un métier où pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être tu ne vas pas te payer. La terre est basse, faut se baisser, faut. C'est un métier qui au début, si on le fait pas par passion, c'est pas la peine.
Ah ouais, tu tiens deux mois. Hein.
C'est pas la peine.
L'argent.
Hein. Voilà.
Donc ça, tu tiens deux mois. Si vraiment t'as pas la vocation de le faire, tu tiens deux mois. Tu fais ta saison des tomates et après tu craques.
Hein. Ouais.
Si on veut venir vous rencontrer, vous êtes ouvert au public?
Ah oui, tous les mercredis matin, tous les dimanches matin, sur notre petit marché, vous venez. Et...
On trouve tous vos produits.
Ah oui,
c'est... On trouve tous nos produits. On travaille également pour les fruits avec un producteur de Arles qui est le seul producteur à notre connaissance en pommes bio,
ouais,
qui
coin,
fait des jus de,
ouais,
du coin,
ouais,
des jus de pommes bio, le Mas d'Ossan,
qui met en biodynamie.
Voilà.
Et vous aimez cuisiner?
Ah ben nous on adore. Enfin moi j'adore.
Ouais, on aime bien.
Cédric il adore aussi.
On aime bien.
Du coup, en plus, on a toujours des bons conseils parce que ces chefs qui sont nos clients, qui sont surtout nos copains en fait. Moi, j'hésite pas à les appeler pour des cuissons quand c'est à la maison ou quand c'est. Ils sont toujours disponibles.
Et on aime bien aussi savoir ce qu'ils font de nos produits, donc on leur demande et ils nous disent ouais, travaille ça comme ça, ça peut être sympa. Et on essaie de refaire à la maison. Et généralement, c'est quand même un peu moins bien, mais c'est pour ça qu'on se retrouve souvent chez eux.
Vous y allez au resto aussi, quand même.
Ah ouais, bien sûr. Ouais.
Et vous aimez vos produits dans leur resto?
Ouais, bien sûr.
Ouais.
Nos produits et ceux des autres.
Ouais,
ceux des autres. J'adore découvrir les viandes ou même les légumes de
ces. Ça, c'est l'assiette, c'est un tout. Et nous, déjà, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est super gratifiant d'en faire partie et de voir un petit peu cette adéquation entre plusieurs producteurs, que ce soit des légumes, parfois ils mélangent avec des herbes, avec de la viande ou du poisson, et à la fin t'as un résultat final qui va te parler quoi. Quand on parlait tout à l'heure des mauvaises herbes, on dit qu'il n'y en a pas de mauvaises parce que c'est surtout la plante, si elle est là, c'est qu'il y a une raison. Donc elles sont là pour indiquer, en fait ce sont ce qu'on appelle des bio-indicateurs. Et en fait, quand tu as telle mauvaise herbe, elle va te dire, mais finalement, ton sol, il a cette particularité. Ça veut dire qu'il est riche en ça, c'est pour ça que cette plante-là, elle pousse. Mais aussi, ça peut vouloir dire qu'elle est pauvre en ça. Ou par exemple, quand tu as du chien dent, c'est que ta terre, elle est très compactée. Donc ça veut dire concrètement, tu as intérêt à réfléchir, à trouver une solution pour que ta terre s'assouplisse. Et après, le chien dent, il part tout seul. Hein.
Vous êtes heureux?
Ah,
vous avez l'air heureux?
Ah ben ouais. Tu sais, hein, je pense qu'il y a des bureaux quand même un peu moins sympas. Ah mince, j'ai oublié de vous montrer cette zone. Tu vois, même moi, parfois, je redécouvre mon jardin.
Aromatique.
Ça. Voilà, là, on est sur du basilic. Là, ça, c'est du citron.
Touche-le, tu vas voir.
Voilà.
L'odeur.
Ouais, c'est puissant. Voilà, pareil, on joue toujours sur les rythmes d'arrosage. C'est ce qui fait parce qu'en fait nous on essaie vraiment que le produit il sorte le maximum de son potentiel. Et c'est vrai que le basilic, tout le temps les gens ils pensent que tout l'intérêt est dans la feuille. Mais en fait pour moi ce qui est bien c'est d'avoir à la fois de la feuille et un petit peu de ces graines là.
Ah ouais.
Et généralement, ton plant, il fait de la graine, il fait pas de la feuille. Et quand il fait de la feuille, il fait pas de la graine. Tout le talent est dans le fait que tu te débrouilles à faire de la feuille avec de la graine.
Ah oui, c'est concentré.
Et, ouais. Et ce qui est sympa, c'est que tu vois, quand t'as des tomates qui n'ont pas de graines, comme je vous ai expliqué tout à l'heure.
Tu leur mets de la graine.
Et en fait, tu mets celle-là, comme ça les gens ils vont croire que c'est des tomates simples, là, avec toutes les petites graines. Et à la fin, eh bien, tu leur exploses le palais. Et c'est sympa.
C'était Terre à Tête. Un grand merci à Seuil pour le montage, à Laurent pour la musique et à Cédric et Sébastien pour leur disponibilité en pleine saison de maraîchage.
On se retrouve très bientôt pour une nouvelle rencontre avec des passionnés de produits de qualité.